Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
Bel après-midi si vous venez tout juste de nous rejoindre et bon appétit hein, si vous êtes à table. Alors voilà, le menu jusqu'à 14h et j'espère que ça vous met en appétit, que vous avez les oreilles qui se dressent parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à savoir. Et vos questions, je ne le rappellerai jamais assez, sont les bienvenues. L'hépatite C, on en parle avec le professeur de médecine Boyan Christophorov. Bonjour professeur. Alors vous êtes gastro-entérologue, ancien chef de service à l'hôpital Cochin et pas dans n'importe quelle discipline. Vous étiez chef de service interniste. Ça veut dire que vous êtes un peu un super médecin généraliste. Alors, vous avez voulu qu'on parle de l'hépatite C, vous avez voulu apporter vos conseils et les prodiguer aux auditeurs de Sud Radio parce que vous m'avez dit que c'est vraiment un sujet de santé publique et on n'en parle pas assez. 400 000 personnes en France infectées par le virus de l'hépatite C?
À peu près, c'est une estimation parce que bien sûr, on ne les a pas tous testés. Dans le monde, on estime que 130 millions de personnes sont infectées par le virus C et tous les ans, il meurt 700 000 personnes d'une maladie liée au virus C.
Donc ça, c'est dans le monde et en France.
En France,
on connaît le nombre de décès.
La mortalité est de plusieurs milliers.
D'accord. Et y a-t-il bon nombre de personnes qui sont infectées et qui ne le savent pas?
Absolument, la plupart. Parce que quelqu'un va sans doute poser la question de savoir quels sont les symptômes de l'hépatite C chronique. Eh bien, ils sont presque nuls ou simplement une fatigue. Et beaucoup de gens vivent avec le virus sans le savoir.
Alors, comment est-on contaminé? Ah non, d'abord, parce que je suis sûr que les auditeurs se mélangent les pinceaux, mais moi de même. Quelle est la différence entre l'hépatite C, l'hépatite B, l'hépatite A? Qu'est-ce que c'est exactement l'hépatite C?
Eh bien, l'hépatite C, on les a nommés dans l'ordre de leur découverte. L'hépatite A, c'est la plus courante, c'est l'hépatite qu'on bénigne, qu'on attrape en se baignant. Ensuite, l'hépatite B, c'est une maladie extrêmement grave. Ensuite, l'hépatite C, c'est l'ordre de découverte. Et vous savez, il y a aussi une hépatite D, une hépatite E.
Ça veut dire que ce sont les... Enfin, on ne va pas faire rentrer dans la tambouille médicale excessivement pointue, mais ce sont donc des hépatites virales.
Oui.
C'est donc chaque fois un virus, et le virus est donc chaque fois différent.
Le virus, entre les A, B, C, D, oui, mais dans le cas du virus C, c'est bien le virus de l'hépatite C. D'ailleurs, il y a plusieurs sous-groupes, on ne va pas faire effectivement de détails.
Alors, l'hépatite C, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une inflammation?
C'est la présence du virus dans le foie. Comment est-ce qu'on l'attrape, vous disiez tout à l'heure? Eh bien, on l'attrapait autrefois par transfusion sanguine, plus maintenant parce que le sang qu'on transfuse est testé. On l'attrape à l'occasion de l'usage de drogue, que ce soit par injection ou même par sniffage, parce que ça, les pailles irritent. Et puis, il y a aussi des pays où il n'y a rien de tout cela, mais où l'hygiène est extrêmement défectueuse. Et donc, les instruments, les seringues qui sont bouillies sont capables de contaminer. Le virus C n'est détruit qu'à 180 degrés. Donc,
J'ai lu qu'il était résistant en préparant cette émission, qu'il pouvait être résistant pendant 6 jours. Hein.
Oui, il est résistant. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser du matériel jetable, ne servant qu'une seule fois.
D'accord. Alors, est-ce que c'est tabou de dire qu'on attrape l'hépatite C, enfin que la population qui est touchée par l'hépatite C comporte bon nombre de drogués?
Absolument, tout à fait. Tout à fait, il y a beaucoup de gens, mais vous savez, drogué, c'est un grand mot. Quelquefois, c'est un adolescent à 16 ans, ils sont allés derrière la palissade se piquer une fois, et puis voilà, ils ne sont pas devenus tous des drogués, loin de là.
Et les transfusions sanguines, non?
Fini.
Ah,
fini,
d'accord.
Fini.
Plus de danger de ce côté-là.
Dans des pays moins surveillés, ça peut être différent.
Plus de danger de ce côté-là. Et alors, la proportion de la population qui n'est pas toxicomane, celle-là, statistiquement, comment a-t-elle le plus grand chance d'attraper une hépatite C?
Eh bien, elle n'a pratiquement pas de chance d'être attrapée. Ça ne se transmet pratiquement pas par voie sexuelle, très, très, très rarement par voie verticale de la mère à l'enfant qui naît.
Parmi les personnes porteuses du virus du sida, il y a pas mal de gens qui ont l'hépatite C. Pourquoi?
Parce que ils se sont contaminés de la même manière par l'usage de drogues injectables.
D'accord. Professeur, pour aller plus loin, quand a-t-on diagnostiqué l'hépatite C? Quand l'a-t-on découverte plutôt?
C'est à la fin des années 1980. parce qu'elle était connue, on l'appelait l'hépatite non A non B, et puis les virologues ont fini par trouver le virus, les anticorps contre le virus, et on a pu avoir le diagnostic.
Donc c'est quand même très récent à l'échelle de la médecine.
C'est très récent.
On l'a découvert de quelle façon? Il y a une histoire, non?
Oh, il y a une histoire. On savait qu'il y avait cette hépatite, mais qui n'avait pas de nom et pas de virus. Et un beau jour, un laboratoire a découvert un anticorps. Et à partir de l'anticorps, on a trouvé le virus. C'est un processus fréquent.
Si l'hépatite C passe le plus souvent inaperçue au début, elle ne guérit pas spontanément. On va voir finalement ce qui caractérise l'hépatite C, c'est qu'on est obligé de vivre longtemps avec, même si les traitements se sont améliorés. Donc, quels sont les premiers symptômes de l'hépatite C? Vous l'avez dit, une grande fatigue, mais après ça ne suffit pas, comment?
Non, on les dépiste par un examen systématique. Les hépatites C, il y a 1 ou 2% des hépatites C font des jaunisses, des maladies aiguës, on les détecte, bon. Mais la quasi-totalité du reste ne ressent rien, où je vous dis, on sent une fatigue, mais il y a tellement de raisons à avoir une fatigue que ça passe souvent inaperçu.
J'accueille Marie-Jeanne sur Sud Radio. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour.
Alors bonjour. Vous êtes contaminée par l'hépatite et ce depuis le mois de juillet, c'est bien ça?
Je suis en traitement depuis le mois de juillet.
D'accord.
Je suis contaminée depuis très longtemps.
Depuis très longtemps et la découverte de la présence du virus a été récente?
En fait, j'ai été dépistée en 1992 parce que j'étais donneuse de sang. C'est à l'occasion d'un don du sang qu'on m'a dépistée.
D'accord. Et comment expliquer que vous soyez seulement traitée depuis cet été?
Eh bien, j'ai eu un premier traitement entre 2003 et 2005 qui a échoué. Je suis restée sur l'échec de ce premier traitement, donc j'ai refusé les suivants. Et cet été, j'ai refait un fibroscan et je suis passée en F2. Et c'est à cette occasion que j'ai recommencé un nouveau traitement.
Professeur?
Oui, elle raconte tout à fait l'histoire d'une hépatite C qui est découverte à un moment donné. Les premiers traitements étaient particulièrement difficiles. Elle a dû recevoir de l'interféron qui vous rend malade. Ce traitement est long d'ailleurs, à peu près un an. Et le taux de succès à l'époque était faible, était de l'ordre de 20-30%. Donc les gens, on leur proposait de recommencer, mais c'est une épreuve très, très difficile à subir. Et donc on a attendu maintenant l'arrivée des nouveaux médicaments. Je pense qu'elle, notre amie est en train de finir son traitement, puisque ça dure 12 semaines, et qu'elle a toute chance d'être guérie.
Alors, on va un petit peu vite là pour avancer dans le sujet, mais le témoignage de Marie-Jeanne est très intéressant. Marie-Jeanne, vous suivez un traitement depuis juillet. Est-ce que c'est le fameux traitement qui coûte si cher, qui a été validé par la ministre de la Santé, Marisol Touraine? Je crois que c'est le Sofofbuvir, c'est ça, hein? Vous me faites parler presque en chinois là, tous les deux, aussi bien Marie-Jeanne que professeur Boyan Christophorov. 40 000 euros pour 3 mois, c'est ça Marie-Jeanne?
Oh, bien plus que ça. Hein. La boîte coûte 15 600 et quelques la boîte. Donc presque le prix d'une voiture.
Voilà, d'accord. Enfin, cela dit, c'est quand même une formidable nouvelle que vous puissiez bénéficier d'un tel traitement.
Oh oui, exactement, exactement. Ça,
alors,
ça
racontez-nous comment est-ce que le professeur Boyan Christophorov disait auparavant, on avait l'interféron, il y avait des conséquences, c'était un traitement extrêmement dur à supporter. Là, comment vous vous sentez?
Là, je me sens bien. Je retrouve la forme, je suis moins fatiguée, je fais de nouveau des projets, ce qui ne m'était plus arrivé depuis très longtemps.
Professeur, c'est quand même extraordinaire. Alors certes, ça coûte excessivement cher, hein, 40 000 euros pour 3 mois, mais bon, la France est un beau pays de permettre d'être soigné de telle façon, non?
Oui, il faut rappeler que notre patiente ne paye pas un centime, que c'est la sécurité sociale.
Voilà, non, mais c'est pour ça
traitement.
Que je dis que la France est un beau pays,
et,
oui.
Et que ce traitement est même appliqué à des gens qui sont sans papier, mais qui ont l'aide médicale d'État. Oui. Donc nous sommes très généreux et je crois qu'il faut s'en féliciter parce qu'on soigne les gens.
Et il faut préciser d'ailleurs, hein, Marie-Jeanne, qu'au départ, vous n'aviez peut-être pas accès à ce traitement. Il était réservé aux gens qui étaient très 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 malades. Et Marisol Touraine a clos une polémique au printemps dernier en disant que désormais, ce fameux médicament, le Sofosbuvir, serait accessible à tous les malades de l'hépatite C. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, Marie-Jeanne?
Eh bien, il serait temps que tout le monde soit dépisté déjà, parce que tout le monde ne l'est pas encore, et que tout le monde puisse avoir accès à ce traitement, parce que dans l'hépatite, il n'y a pas que le foie. Le traitement est conditionné à l'état du foie, mais la maladie entraîne d'autres pathologies plus ou moins graves. On peut même se retrouver en fauteuil roulant. Donc il serait bien que tout le monde soit dépisté et tout le monde traité.
Alors, précisons, professeur, quelles sont les pathologies qu'entraîne l'hépatite C?
Alors, c'est essentiellement le foie avec le risque de cirrhose puis de cancer, mais cela peut réveiller ou
donc
provoquer...
Donc cancer du foie, hein, bien sûr.
Oui,
hein,
bien sûr. Un certain nombre de maladies auto-immunes qui peuvent toucher, comme elle vous dit, la peau, les nerfs et beaucoup d'autres organes. Mais ces pathologies sont vraiment minoritaires. C'est l'essentiel, c'est la cirrhose du foie.
Merci Marie-Jeanne pour votre témoignage. Professeur Boyan Christophorov, les auditeurs ont des questions à vous poser. Moi aussi, on va parler du dépistage. Hein. On va mettre le doigt sur ce qu'a souligné Marie-Jeanne dans un tout petit instant. Le temps que vous fassiez tous le 0826-300-300 pour être avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
L'hépatite C, on en parle dans Service Compris sur Sud Radio jusqu'à 14h et vous avez la moindre question à poser au professeur de médecine Boyan Christophorov qui est gastro-entérologue. Vous n'hésitez pas, hein, cette émission est la vôtre, vous avez toute votre place, vous faites tout de suite le 0826-300-300. Professeur Christophorov, incroyable témoignage de Marie-Jeanne qui a quand même une hépatite qui a été, enfin qu'elle a contracté, une hépatite C qu'elle a contractée en 1992. Finalement elle a été quand même traitée tardivement, enfin elle a eu un premier traitement mais qui n'a pas très bien marché, qu'elle n'a pas trop supporté, ça fait quand même presque 25 ans qu'elle vit avec la maladie et là avec les nouveaux traitements, voilà, elle vit quand même bien, elle n'est pas fatiguée, donc on peut vivre correctement, ça c'est grâce au progrès de la médecine. Expliquez-nous pourquoi les nouveaux traitements coûtent si cher, 40 000 euros pour un traitement qui dure 12 semaines.
Eh bien, c'est l'offre et la demande. Le fabricant dépensait beaucoup d'argent en recherche. Ça coûte extrêmement cher. Ça commence aux cellules dans des tubes, ça se termine avec des volontaires sains. Et il a maintenant un produit dont la fabrication coûte à peu près 150 euros pour le traitement. Et il estime que rendant service, il doit être payé à un niveau. Bon, je vous signale par exemple que en Égypte, où la maladie est très répandue et où les moyens matériels sont réduits, ça coûte 1000 dollars ce traitement. En Côte d'Ivoire, récemment, un patient l'a payé 2000 euros. Donc c'est une très grande inégalité et il faut que les responsables qui négocient les prix prennent un peu des leçons de dureté commerciale.
On accueille Cyril qui a fait le 0826-300-300. Bonjour Cyril.
Bonjour à tous.
Bonjour.
On vous écoute avec le professeur Christophorov.
Alors moi j'ai une question, ça serait surtout sur la façon dont on peut reconnaître les symptômes de cette maladie. S'il vous plaît.
Oui, Cyril, c'est une très bonne question. C'est que la plupart du temps on ne les reconnaît pas, qu'il n'y a pas de symptômes. La maladie, évolue à bas bruit, à des vitesses d'ailleurs très différentes. Il y a des gens chez qui ça ne fait presque aucun dégât, et donc ils vivent, moi j'ai connu des grands-mères, qui terminent leur vie à 90 ans avec un portage du virus C sans avoir aucune pathologie. Et puis les hommes, et notamment les hommes qui boivent, c'est très important, qui consomment de l'alcool,
boivent, déclenchent,
vont faire beaucoup plus rapidement des maladies. Mais l'hépatite C en elle-même n'a généralement aucune manifestation. Bien sûr, il y a la fatigue, mais il y a tellement de causes aux fatigues. Et puis, il y a ces complications très rares dont on parlait tout à l'heure qui la font reconnaître. Mais autrement, les gens se réveillent un jour avec une cirrhose après 20, 30, 40 ans d'évolution.
Et donc, ce ne sont pas forcément des gens qui ont beaucoup bu?
Ah non, pas forcément, bien sûr. Bien sûr, il y a une inégalité.
Il y a une grande inégalité, oui, ça c'est interpellant, hein, dans la façon finalement dont le corps gère le virus de l'hépatite C.
Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres maladies.
Et vous pensez, qu'est-ce qui rentre en jeu? Ça c'est passionnant professeur, qu'est-ce qui rentre en jeu pour expliquer ces inégalités?
Oui, on ne sait pas tout. D'abord il y a le sexe, c'est plus grave chez les hommes que chez les femmes. Il y a la consommation d'alcool. Il y a le virus lui-même, parce qu'il y a plusieurs sous-types de virus, et puis il y a des éléments que
l'on ne connaît pas. Nos défenses immunitaires, non?
C'est compliqué, Véronique. La maladie est liée à l'immunité. les gens qui ne se défendent pas contre le virus le portent toute leur vie sans souffrir. Le virus, quand il est détecté dans les cellules du foie, le système immunitaire envoie des tueurs qui tuent des cellules hépatiques pour chasser le virus. Et c'est cette activité d'immunité qui est responsable de la maladie.
D'accord, parce que les cellules vont essayer de tuer le virus, donc les cellules du foie infectées, mais il se trouve aussi qu'elles peuvent attaquer aussi les cellules qui sont saines.
Non, c'est pas ça qui donne le cancer du foie. Le virus...
Allez, là, c'est vraiment l'hépatite C pour les nuls. Expliquez-nous.
Mais c'est compliqué. Le virus vit dans la cellule du foie sans la tuer. Et c'est la réaction de l'organisme qui va provoquer la maladie. Voilà. Mais c'est un peu compliqué, je crois qu'il faudrait disposer de beaucoup plus de temps pour bien s'expliquer.
En tout cas, vous avez bien répondu à la question de Cyril sur Sud Radio. Alors, venons-en au dépistage. Comment dépiste-t-on l'hépatite C?
Alors, on a créé des principes de dépistage. Alors, bien sûr, on pourrait dépister tout le monde. À ce moment-là, le rendement serait faible et le coût très élevé. Donc, il y a des gens qui sont ciblés, possiblement infectés, ceux qui ont été transfusés avant 1989, ceux qui ont eu des pratiques d'injection, et même si elles sont depuis longtemps arrêtées.
Les anciens toxicomanes.
Voilà. Même consommateurs, je vous ai dit, quelquefois
ils sont piqués une fois. Consommateurs, bien sûr.
Il suffit de se piquer une fois sniffé une fois de la cocaïne avec une paille. Alors, c'est pas grand-chose. Et puis, on n'a pas parlé d'une grande partie de la population mondiale extra-européenne qui est infectée par le virus C pour des raisons plus ou moins connues, probablement liées à l'usage de matériel médical contaminant.
Voilà, malheureusement. Dominique a composé le 0826-300-300 pour être avec nous, pour évoquer l'hépatite C. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous avez un témoignage à nous apporter?
Oui, effectivement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier des nouveaux traitements antirétroviraux dès juin 2015. Et je tiens à préciser qu'il y a quand même, contrairement à ce que nous disent les laboratoires, des effets indésirables qui sont quand même pas dénués de gravité. Donc, il faut quand même que les gens s'attendent à... Vous voyez, c'est un traitement tellement lourd, avec un délai de 3 mois, en général, pour la majorité des gens. Moi, j'ai eu 6 mois de traitement, qui bouleverse complètement l'organisme. D'autant plus chez un malade qui a transporté la maladie depuis de nombreuses années. Donc il apparaît des bouleversements qui font que on s'étonne un peu et bien souvent on n'est pas forcément écouté par les médecins qui nous suivent, les spécialistes.
Alors attendez Dominique, là, est-ce que votre témoignage fait réagir forcément le professeur Christophorov?
Oui, c'est vrai qu'il y a des intolérances, il y a des effets secondaires, mais sans aucune commune mesure avec ce qui se passait avant, très très rare, et je dois dire que j'ai une grande expérience, j'ai très rarement vu se plaindre, sauf des gens qui vous disent, ça leur pèse un peu sur l'estomac ou ceci. Quel effet indésirable avez-vous eu?
Alors j'ai eu des troubles du sommeil, avec des cauchemars, de très mauvais rêves, j'ai eu une hyperactivité suivie de grosses périodes de fatigue, ce qui me demandait de pouvoir gérer mon temps dans la journée et de ne pas me retrouver en pleine activité quand j'avais ces coups de fatigue qui arrivaient, parce qu'il fallait un repos immédiat et du calme, et puis également une très grande hyperémotivité.
Oui, écoutez, je crois que c'est intéressant de noter ces phénomènes, mais ils sont très minoritaires dans le groupe des malades traités. Et c'est de courte durée puisque c'est 12 semaines.
Il faut peut-être préciser d'ailleurs que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un traitement. Il y a bien des maladies où on ne s'est pas soigné, où on ne s'est pas traité. Vous savez ça, Dominique?
Oui, non, mais je suis au courant, c'est une très grande avancée pour l'humanité, puisque il s'agit de la première éradication d'une maladie chronique pour l'être humain. Donc on ne peut pas nier le progrès qui a été fait. Mais ce que je veux dire, c'est que le malade, après avoir éradiqué son traitement, il ne retrouve pas le statut qu'il avait avant sa contamination.
Ah ben non, mais attendez, c'est pas rien quand même de contracter une hépatite C, c'est pas rien, c'est... j'ai envie de dire, on n'en sort pas indemne, on l'a vu avec Marie-Jeanne, même si elle vit avec. Dominique, on vous embrasse, merci pour votre témoignage. Allez, le 0826-300-300, c'est intéressant, la professeure Christophorov, ce qu'a dit Dominique, parce que finalement, on aimerait être comme avant. Alors franchement, ça c'est la question, pour qu'on comprenne bien ce qui est l'hépatite C, on a dit que c'était un véritable problème de santé publique, on a évoquer le fait que c'était une maladie silencieuse, que bien des Français ne savaient même pas qu'ils étaient porteurs du virus de l'hépatite C. Est-ce qu'on peut complètement en guérir? Est-ce qu'on peut être comme avant?
Écoutez, comme avant, pour une maladie qui dure 30, 20, 30, 40 ans, j'aimerais bien savoir si on se souvient comment on était avant. Les traitements que l'on applique sont toujours donnés à des gens qui sont malades depuis des années et des années. Alors, La guérison, on ne parle pas de guérison, on parle de réponse virologique soutenue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de virus qui se multiplient dans l'organisme. Alors, il reste un point important, c'est que ceux qui ont eu une hépatite importante, ceux qui ont une cirrhose, conservent avec une réduction du risque, mais la possibilité de voir apparaître un cancer du foie. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a bénéficié d'une éradication du virus doit être surveillé régulièrement, parce que s'il apparaissait un petit cancer du foie, il serait tout à fait possible de le détruire efficacement.
Quand on est atteint par une hépatite C, on est opéré, on est opéré au niveau du foie, justement, que ce soit une cirrhose ou un cancer du foie. Comment gère-t-on ça? Parce que les cellules du foie se régénèrent.
Oui, c'est amusant, le mythe de Prométhée est vrai. Lorsqu'on enlève une partie du foie, les cellules du foie se multiplient et régénèrent un foie. On peut opérer le foie de quelqu'un qui a une hépatite C, bien sûr, quand c'est nécessaire.
Quels effets secondaires avec les médicaments? On l'a vu, hein, l'interféron, mais on donne encore de l'interféron?
Non,
on ne donne plus ces médicaments.
On peut le donner dans une autre forme d'hépatite, dans l'hépatite B, mais pas dans l'hépatite C.
Donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, l'évolution de l'hépatite C, on n'est pas tous égaux quant à son évolution, mais globalement, est-ce que c'est forcément la cirrhose ou le cancer du foie?
Pas du tout, c'est même le contraire, c'est un petit nombre qui
va faire la cirrhose, vous nous rassurez. Parce qu'on entend souvent ça, professeur, hein. J'ai eu une hépatite C, donc ça s'est transformé en cirrhose, enfin souvent, entendons-nous, mais... On fait un lien de cause à effet.
Les gens retiennent toujours l'aspect le plus grave des maladies et oublient qu'il y a des formes bénignes.
Le 0826-300-300 pour nous donner votre témoignage ou vos questions. Rappelons que cette infection concerne en majorité les usagers de drogues administrées par voie intraveineuse. Les détenus aussi, on parle des détenus, pourquoi? Là encore, des passés de toxicomanes?
Mais parce que, effectivement, les détenus... sont en but à des pratiques toxicomanes, qu'ils ont une sexualité qui est quelquefois à gros risque, et donc ils cumulent les possibilités. C'est systématique. Dans les prisons, le dépistage de l'hépatite C, comme du virus du sida, sont systématiques.
D'accord, donc vous l'avez dit, professeur, on cible toujours des catégories bien précises pour le dépistage. On accueille Eric, qui a fait le 0826-300-300. Bonjour Eric.
Oui, bonjour. Écoutez, je vous ai appelé parce qu'en fait, j'écoutais votre émission. Je suis moi-même souffrant d'une hépatite C depuis 30 ans. Et en fait, l'origine de cette hépatite, c'est effectivement ce que disait le professeur. J'ai fait une fois une tentative de toxicomanie, hein, que je n'ai jamais répété, et malheureusement, j'ai pas eu de chance. Mon témoignage, c'est pour dire qu'en fait, je vis tout à fait normalement. Je fais effectivement attention à l'alcool et notamment à pas boire d'alcool fort, mais je vis tout à fait normalement. Mon hépatite n'évolue pas, et donc en fait, lors de mon dernier rendez-vous avec le gastro-entérologue, lorsqu'il a été question de ce nouveau traitement, j'ai choisi d'attendre encore un an pour permettre que des gens plus atteints que moi soient soignés en premier et que le traitement coûte un petit peu moins cher à l'État d'ici là. Voilà.
Professeur ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des règles de traitement. Il y a des malades qui sont éligibles au traitement et d'autres où c'est inutile. Et ces règles sont au milieu de la population des malades, et les pouvoirs publics français voudraient généraliser, et ils ont raison, le traitement à tout le monde. Mais ce qui est impérieux, c'est de traiter les gens dont l'hépatite progresse vers la cirrhose.
Voilà, et voilà. Là, Eric, vous, la bonne nouvelle, c'est que l'hépatite ne progresse plus.
Elle n'a pas bougé, non, mais elle n'a jamais progressé depuis 30 ans. J'avais été diagnostiqué initialement par le professeur Poinard, qui avait mis, je crois savoir, qui avait mis au point, ou participé à la mise au point des fibrotests. J'ai fait un premier traitement interférent de 1 an qui était très très lourd à supporter. J'ai fait un second traitement trithérapie de 3 mois que j'ai arrêté. Et puis finalement, les traitements ne s'avéraient pas nécessaires. Mon hépatite n'a jamais
finalement, c'est une
évolué,
bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, Eric, c'est que bon, vous avez essayé pas mal de traitements, mais on le rappelle, dans cette émission, il y a des traitements et c'est déjà pas mal. On fait des progrès et c'est déjà très bien. Je vous remercie, Eric, pour votre témoignage, parce que ça nous permet de conclure cette émission. Rappelons-le, hépatite C, maladie silencieuse. On ne sait pas forcément qu'on est porteur, mais grâce à Eric, on comprend. Il y a bien des traitements et on vit bien. Merci beaucoup, professeur Boyan Christopherov, pour le service rendu, et tout compris, hein, pour les auditeurs de Sud Radio. On vous retrouvera mercredi prochain pour une prochaine page santé. Allez, restez-nous fidèles sur Sud Radio. À tout de suite.